On est dans notre étude sur les mystères. On est encore dans le mystère de l'aveuglement qu'on avait juste débuté la semaine passée. On avait parlé de ce mystère-là. C'est l'aveuglement d'Israël, puis du fait qu'ils ont rejeté leur Messie. Ils sont dans un temps d'aveuglement présentement jusqu'à ce que la totalité des païens soient entrés. On avait parlé que dans l'exposé de Romains 9, 10, 11, Paul décrit bien la situation passée d'Israël, présente au moment où il écrivait, puis future jusqu'à temps que le Seigneur les restaure. Puis, parce qu'on avait dit que dans Romains, c'est l'exposition de l'Évangile. Puis, si c'est par la foi, bien, c'est un peu comme si un argument venait dire, bien, si c'est par la foi, qu'est-ce qui arrive d'Israël, les promesses que Dieu a faites à Israël. Mais Paul démontre que vraiment, ça ne rentre pas en conflit. L'Évangile ne rentre pas en conflit avec les promesses faites à Israël qui vont s'accomplir parce que, puis à travers le temps, on avait vu aussi que dans l'Ancien Testament, il y avait la prédiction de l'aveuglement d'Israël. Dans Ésaïe, on avait regardé dans Ésaïe qui nous parle, Ésaïe 6, le rejet, mais aussi la restauration. Puis c'est une chose qu'on voit toujours dans l'Ancien Testament, il y a l'éloignement d'Israël, ou le rejet d'Israël, mais aussi la restauration. Puis dans Osée aussi, dans chapitre 3, versets 4 à 5, puis on parlait de la période Lo-Ammi, parce que Osée avait appelé son enfant Lo-Ammi, qui veut dire pas mon peuple. Donc Ami, c'est peuple, puis Lo, c'était pas mon peuple. Donc c'est un temps où l'Israël, Dieu dit qu'il n'est pas mon peuple à cause de leur égarement, puis à cause de l'aveuglement qui portait sur eux. Mais le Seigneur va restaurer dans sa grâce. Fait qu'on va lire pour commencer dans Romains, excusez, Romains 11 pour trouver notre mot. On cherche le mot mystère toujours dans ce qu'on regarde parce qu'on parle des mystères du Nouveau Testament, des choses qui ne peuvent pas être comprises, mais qui nous doivent être expliquées pour qu'on puisse le comprendre. Mais c'est des choses qui étaient cachées, qu'on n'aurait jamais pu. Ou connaître de soi-même. Il fallait que le Seigneur nous révèle ces choses-là, mais le Seigneur le fait dans sa bonté, dans ce qui nous parle aussi de l'intimité de la relation qu'on a avec le Seigneur. Il nous fait connaître ces choses-là. Donc, au verset 25 de Romains 11, on va lire ici Paul qui parle du fait que Dieu a choisi présentement l'Église au lieu d'Israël pour être un témoignage, mais qui va revenir, puis là, il explique pourquoi qu'ils sont maintenant dans l'aveuglement. Il dit au verset 25, « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée, et ainsi tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. » Donc, on voit ici que dans les Romains 9, 10, 11, Paul parle ici d'un peuple témoin choisi. Donc, l'élection est pour le peuple. Ce n'est pas un individu, mais c'est le peuple. Mais quand il parle d'Israël, il dit, pour ça qu'il dit une partie d'Israël est tombée. Qu'est-ce qu'il veut dire là, une partie d'Israël qui est tombée? Ça veut dire que les Israélites, les Juifs, en tant qu'individus, autant que nous peuvent accéder au salut par la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas qu'ils sont rejetés dans la totalité, mais c'est la nation qui est dans l'aveuglement. Mais individuellement, les Juifs peuvent entrer dans le salut de la même façon que nous par la foi en Jésus-Christ. Puis comme au début de l'Église, c'était des Juifs, les apôtres, les disciples, c'était des Juifs qui ont entré dans l'Église. Ensuite, les païens sont entrés, mais au même niveau. C'est important de comprendre ça. C'est plus facile de comprendre Romains 9, 10, 11. Quand on voit que Dieu ne parle pas d'un individu, mais qu'il parle d'un peuple, le peuple d'Israël et le nouveau peuple qui n'était pas un peuple, l'Église, ceux qui sont sauvés par la grâce de Dieu. Donc, on va demander au Seigneur de nous aider dans notre étude ce soir. Seigneur, notre Dieu, on veut te remercier pour ce temps qu'on peut avoir ensemble. Merci, Seigneur, pour tous ceux qui se connectent sur cette réunion-là. C'est un bon temps, Seigneur, un temps qu'on peut passer ensemble, avoir la communion ensemble dans ta parole. On te remercie pour cela, Seigneur. On te demande qu'on puisse tous être bénis par ta parole ce soir, parce que toi, tu es un Dieu qui veut nous bénir, qui veut nous faire comprendre des choses. Seigneur, aide-nous, on te le demande, Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, on arrive ici. On dirait que Paul dit, après avoir parlé de la mise de côté ou l'aveuglement d'Israël, c'est ce qu'on voit dans les chapitres 9, 10 de Romains, comme on avait dit, 9, c'est le passé d'Israël quand ils sont devenus une nation. Mais dans le chapitre 10, c'est qu'ils ont rejeté l'Évangile. Mais après avoir parlé de la mise de côté ou ce qu'on a dit, le mystère de l'aveuglement, l'aveuglement d'Israël, maintenant, il pose une question au chapitre 11 et au verset 1. Il dit, je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Puis regardez la réponse qui dit ici, loin de là, car moi aussi je suis Israélite de la postérité d'Abraham et de la tribu de Benjamin. Donc cet aveuglement-là est sur la nation, mais en tant qu'individu, le Seigneur, quand même, comme Paul, il peut dire, il n'a pas rejeté son peuple parce que moi je suis Israélite, puis moi je suis sauvé, puis moi je suis entré dans la promesse du Seigneur par la foi. Donc, c'est pas que Dieu a rejeté. Puis on voit ça aussi dans les villes, des fois, qui rejetaient le Seigneur. Parfois, ils prenaient les individus puis ils les sortaient de la ville pour agir envers eux. Donc, au point de vue individuel, le Seigneur est toujours ouvert. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais là, ici, c'est vraiment comme on a dit tantôt, il faut bien comprendre que c'est pas, Dieu parle pas d'individus dans Romains 9, 10, 11. Il parle d'un peuple, d'une nation, soit Israël ou le nouveau peuple que Dieu s'est choisi. Puis Dieu avait tout à fait, c'est dans sa justice qu'il pouvait faire ça sans manquer à ses promesses de se choisir maintenant, pendant qu'Israël est dans l'aveuglement, se choisir un nouveau peuple qui n'était pas un peuple auparavant. L'Église n'existait pas. Il n'y avait rien qui constituait l'Église avant dans l'Ancien Testament. C'est vraiment le Seigneur Jésus-Christ qui a amené ce peuple-là à devenir un peuple, ceux qui se mettraient leur confiance en lui par la foi. Donc, quand il dit Dieu a-t-il rejeté son peuple, il dit loin de là, Dieu n'a pas rejeté son peuple. Et en tant qu'individu, ils peuvent être sauvés. Paul en est la preuve flagrante. Mais ensuite de ça, il parle, comme on a vu dans les versets 25-26, il parle de l'aveuglement d'Israël, mais c'est un aveuglement qui est temporaire. C'est pas permanent, c'est temporaire. C'est un temps que le peuple d'Israël, en tant que nation, est dans l'aveuglement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Puis Dieu va revenir avec Israël à ce moment-là et il va. Puis dans ce temps-là, ce ne sera pas un individu qui va être sauvé, mais ça va être toute la nation complète. Ceux qui auront, comme il dit dans Matthieu 24, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Donc, ce n'est pas nous qui persévérons dans une bonne vie pour être sauvés, mais c'est vraiment en rapport avec Israël. Ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, c'est ceux qui vont survivre la tribulation jusqu'à la fin. On sait qu'il va y avoir deux tiers d'Israël qui vont périr dans la tribulation, la grande tribulation. Il va en rester un tiers selon les prophéties de l'Ancien Testament. Puis ce tiers-là qui va être encore vivant quand le Seigneur Jésus va venir pour les délivrer, bien, toute cette nation-là au complet, ceux qui seront encore vivants, ils vont être sauvés maintenant, ils vont reconnaître leur Messie, ils vont dire, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Puis là, comme Zacharie l'a dit, et ils me verront celui qu'ils ont percé, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un premier-né. Donc, cet aveuglement-là est temporaire. C'est jusqu'à ce que, c'est un aveuglement jusqu'à ce que Dieu ait accompli son dessein avec les gentils. Puis ensuite, le voile va être enlevé. Puis là, ils vont pouvoir voir leur Messie, comme on parle d'aveuglement. Donc, l'aveuglement va être enlevé. Puis là, ils vont voir leur Messie. Puis ils vont être restaurés à leur Messie. Donc, quand on parle d'Israël, c'est important de comprendre bien que Dieu a fait des alliances avec Israël. Et les alliances, c'est lui qui garantit ces alliances-là. On va voir ici, il y a trois alliances pour la bénédiction d'Israël. Donc, il y a trois alliances. Première alliance, c'est avec Abraham. Dieu a fait Abraham. On sait qu'Abraham, c'est le père de la nation. C'est lui qui est le début de la nation. C'est de lui que vient la nation d'Israël. Et Dieu, dans Genèse 15, a fait une alliance avec Abraham, qui lui a promis qu'il serait père de cette nation-là. Donc, c'est la nation ici. Dans la deuxième alliance, C'est pour la terre promise. Dieu a promis la terre. Donc, il a promis de former cette nation-là d'Israël qui n'existait pas auparavant, mais à partir d'Abraham, Dieu a formé une nation. Il a fait une alliance avec Abraham pour former cette nation-là dans Genèse 15. Mais aussi, il en a formé une plus tard avec Moïse pour la terre promise dans Deutéronome 29-30. C'est des chapitres intéressants par rapport à cela. C'est dans Deutéronome 29, les chapitres 29 et 30, Dieu a fait une promesse, il a donné une alliance. Qu'est-ce qui consistait cette alliance-là pour la terre promise à Moïse? Ensuite de ça, il a fait une alliance avec David dans 2 Samuel 7. Peut-être on va aller dans 2 Samuel 7, versets 10 à 16. Il a fait une alliance avec David. David qui est le roi de la nation. Donc, on a la nation en Abraham, on a la terre, le pays qui leur a été promis, qui est vraiment disputé maintenant dans nos jours, mais qui, le Seigneur va accomplir ses promesses pour eux. Mais aussi, donc, ils ont une nation, ils ont besoin d'un pays, mais ils ont besoin aussi d'un roi. Puis, dans 2 Samuel 7, les versets 10 à 16, il dit, j'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël. Je l'ai planté pour qu'il y soit fixé, ne soit plus agité, parce que pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Donc, parle de David. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles et j'affermirai son règne, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui comme je l'ai retirée de Saül que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Donc ici, on sait que, premièrement, ça parle de Salomon, qui est le fils de David. C'est lui qui bâtirait la maison et c'est lui qui a bâti le temple. David avait projeté de bâtir le temple, mais Dieu a dit non parce qu'il était un homme de guerre, un homme de sang. Il dit, c'est ton fils qui va bâtir. Donc c'est Salomon ici qui est en question. Mais toujours comme avec la prophétie, on voit un accomplissement près, mais aussi un accomplissement plus loin. Un accomplissement plus loin, mais plus grand aussi. Cet accomplissement-là, c'est dans son plus grand-fils. C'est, lui avait dit, s'il fait le mal, je le châtierai. Mais là, ça parle aussi du Seigneur Jésus, il ne fera pas le mal. Le Seigneur Jésus est obéissant. C'est lui, son règne est pour toujours. Son règne est éternel parce que c'est un règne d'équité, de justice. Donc, c'est lui, le Seigneur Jésus, qui va bâtir la maison. Ben, au sens, d'une façon, du point de vue littéral, physique, Salomon a bâti une maison à l'Éternel, mais le Seigneur Jésus va bâtir, lui, la vraie maison éternelle pour le Seigneur. On va aller dans le psaume 89. Le psaume 89, on va lire les versets 4 et 5. Donc, psaume 89, versets 4 et 5. Comme on dit ici, l'alliance avec Abraham pour être une nation, l'alliance avec Moïse pour la terre promise, puis maintenant, ben, ça leur prend un roi. Ce roi-là, c'est le fils de David, c'est pas David lui-même, mais c'est son fils, puis c'est important de bien comprendre ça. David, voyait dans son fils, il voyait jusqu'au Seigneur Jésus. Donc, dans le psaume 89, les versets 4 et 5, il dit, j'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton règne à perpétuité. Donc là, on voit que ça, c'est dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc la postérité de David, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc après lui, il n'y a plus besoin d'en avoir d'autres. Le problème toujours dans les fils, c'est que les fils se détournent. Mais là, ici, c'est le Seigneur Jésus, lui, comme fils de David, qui ne se détournera jamais. Ça va être un règne éternel, un règne d'équité. Quand on voit dans Genèse 15 l'alliance avec Abraham, Genèse 15, c'est un chapitre fondamental de l'Écriture. Donc, c'est comme le fondement, c'est le salut par la foi. Donc, dans Genèse 15, on voit le fondement de salut par la foi. Abraham crut Dieu, la promesse que Dieu avait faite, et Dieu lui a imputé ou mis à son compte pour justice. Donc, c'est ça qui l'a rendu juste devant Dieu, c'est qu'il a cru à la promesse de Dieu. On va aller dans Romains 4. Paul, dans Romains 4, se réfère à au chapitre 15 de Genèse pour montrer qu'Abraham, même qui est le père de la nation, ça c'est un argument aussi qu'on voit là, dans Romains 4, donc c'est ce qui arrive avec la nation d'Israël, est-ce que c'est par les œuvres qu'on est justifié? Paul dit non, c'est pas par les œuvres, c'est par la foi qu'on est justifié. Puis il démontre que même le père de la nation d'Israël a été lui-même justifié sur la base de la foi, puis même du fait que Abraham, la loi est venue 430 ans après Abraham. Donc, Abraham n'était pas justifié ou déclaré juste par la foi, par la loi, mais vraiment par la foi. Donc, Romains 4, versets 13 à 25, et okay, 4, là, je suis dans 3, 4, versets 13 à 25. Il dit, en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est annulée. Car la loi produit la colère. Et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous, selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Ça, c'est sur la base de la foi, là. Il est notre père. Attends, attends un petit peu. Est-ce que je suis rendu là? Ouais, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous, selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Donc, il démontre ici vraiment que c'est fondement du salut sur la base de la foi. Donc, au verset 18, espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant une pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé, c'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Fait que Paul, ici, dans son argument, démontre vraiment que le salut sur la base de la foi, l'imputation de la justice à ceux qui croient, c'est en pleine harmonie avec même le début de l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, non seulement pour Israël, mais aussi pour nous autres. Donc, c'est un argument fort. Dans Genèse, au chapitre 15, au verset 6, on voit que c'est là qu'on. Genèse 15, au verset 6. Attends un petit peu. 15, verset 6, il dit, Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Donc ça, c'est le verset vraiment qui est tout l'argument de Paul dans Romains 4. Donc on voit que Abraham, c'est vraiment à mi-chemin entre la création et la croix. Donc chronologiquement dans la Bible, Abraham arrive au moment où c'est à mi-chemin entre la création et la croix du Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est lui qui est le père des croyants. Abraham est déclaré le père de tous les croyants. Donc, il est même le père des croyants avant lui. Parce qu'il est vraiment comme le principe du salut basé sur la foi. il a cru à Dieu, cela lui fut imputé à justice. Donc, on voit vraiment que c'est le fondement ici de l'Écriture sur la base de l'Évangile, le salut par la foi. Mais Abraham aussi est le premier patriarche. Quand on regarde au patriarche de l'Ancien Testament, c'est Abraham qui est le premier, ou c'est un pèlerin, c'est le père de la nation. Puis, c'est lui qui était appelé l'Hébreu aussi. On parle des Hébreux. Donc, les Hébreux, le mot Hébreu veut dire dans le chapitre 15 au verset 7, il dit, l'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Donc, pour sortir d'Ur en Chaldée, venir au pays, mais il venait d'au-delà du fleuve. Puis, le mot Hébreu, c'est ça qui veut dire, ça veut dire, c'est homme d'au-delà de la rivière. Puis, il était appelé comme ça, apparemment, par les Cananéens. Comme on dit, ah, c'est lui qui vient d'au-delà de la rivière. Il venait au-delà de l'Euphrate, il venait de la Chaldée. Donc, c'est là que vient le mot Hébreu. C'est celui qui est le père de la nation. C'est pour ça qu'on parle des Hébreux. C'est ceux qui viennent d'Abraham. Mais la première mention de l'Alliance, c'était en Genèse, chapitre 12, versets 1 à 4. C'est la première mention de l'Alliance. C'est quand Dieu a appelé Abraham à sortir de la Chaldée pour venir ici dans le pays. Au verset 1 de Genèse 12, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc ça, c'est l'alliance, le début, la première mention de l'alliance. Donc c'est l'appel pour sortir de la Chaldée, pour venir dans le pays. Mais cette alliance-là a été confirmée dans le chapitre 13 de la Genèse, versets 14 à 17. Ça, c'est après qu'il s'est séparé de Lot. Dieu a dit à Abraham dans le verset 14, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi et parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Puis Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Donc ici, dans cette confirmation-là de l'alliance que Dieu avait promis à Abraham, il avait dit de sortir de la Chaldée, qu'il lui donnerait un pays. Mais là, il lui donne le pays. Mais ici, dans cette confirmation-là, il parle de sa postérité comme la poussière de la terre. Donc, c'est significatif. Il dit ta postérité sera comme la poussière de la terre. On va remarquer ça. Ça, c'était après que Lot se fut séparé de lui. Mais dans le chapitre 15, les versets 1 à 7, cette alliance-là est ratifiée. Donc, il dit au verset 1, après ces événements, Genèse 15, 1, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, ta récompense sera grande. Abraham répondit, Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Donc maintenant, ici, quand l'alliance est ratifiée, il parle de sa postérité comme les étoiles du ciel. Il dit, sors dehors, regarde les étoiles, si tu peux les compter, puis telle sera ta postérité. Donc, premièrement, il avait parlé d'une postérité qui serait comme la poussière de la terre. Maintenant, il parle d'une postérité qui serait comme les étoiles du ciel. Plus tard, dans Genèse 22, quand Abraham, en obéissance à Dieu, a voulu offrir son fils Isaac. Encore là, lui a parlé encore de cette alliance-là parce qu'il avait voulu vraiment, il avait été obéissant jusqu'à vouloir offrir son fils. Donc, dans le chapitre 22, Il dit, verset 15, il dit, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, c'est-à-dire d'offrir son fils, et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Donc ici, il parle de sa postérité encore comme les étoiles du ciel, mais aussi comme le sable qui est sur le bord de la mer. Donc ici, il y a trois métaphores qu'il utilise pour décrire la postérité d'Abraham. Puis encore une fois, on voit que l'Écriture est toujours en accord, toujours en harmonie avec c'est que dans l'alliance faite à Abraham, Dieu rejoint la poussière de la terre, sa postérité qui est la poussière de la terre. Ça, quand on parle de la terre, on parle d'Israël. Donc, c'est Israël, il rejoint dans l'alliance, il rejoint Israël. Les étoiles du ciel, ben, c'est l'Église qui est un peuple céleste. Puis le sable qui est sur le bord de la mer, toujours dans l'Écriture, quand on parle de la mer, on parle des nations. Donc là, ici, c'est les nations. Encore une fois, on a les trois divisions de l'humanité selon Dieu qui rejoint Israël, l'Église et les nations. Toujours Dieu a ça en vue. Puis comme on avait dit déjà, je pense que c'est la dernière fois, dans 1 Corinthiens 10, 32, Dieu voit toute l'humanité en trois divisions. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Donc les Grecs, c'est les nations, puis l'Église de Dieu et les Juifs. Donc, cette alliance-là que Dieu avait donnée à Abraham a été scellée par la circoncision. Donc, ils devaient avoir un signe dans leur chair pour cette alliance-là. Dieu avait demandé que les mâles soient circoncis. Dans le chapitre 17, les versets 9, Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous. Et ta postérité après moi, tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Donc ça, c'était un signe que Dieu avait demandé dans leur chair qu'ils soient circoncis. C'est de là qu'on commençait à parler des circoncis et des non-circoncis. Ceux qui n'étaient pas d'Israël étaient des incirconcis. Ceux qui étaient d'Israël étaient les circoncis. Ça devient une marque dans leur chair. Ils sont dans l'alliance que Dieu a fait avec eux. Cette alliance-là a été confirmée à Isaac dans Genèse 22, 15 à 18, puis 26, 3 à 5, et à Jacob, on voit que ça, c'est les patriarches, on a Abraham, Isaac et Jacob, souvent qui sont mentionnés quand ils parlent de leur père, Abraham, Isaac et Jacob, qui reviennent comme ça. Après ça, tu as les 12 patriarches, ceux qui sont nés de Jacob. Mais cette alliance-là, à Bethel, quand Abraham, pas Abraham, mais quand Jacob voyageait pour aller à Padan-Aram, eh bien, Dieu avait encore confirmé cette alliance-là à Jacob dans Genèse 28, versets 13 à 14. On se souvient de l'échelle qui était posée sur la terre, puis qui touchait le ciel, les anges de Dieu qui montaient et descendaient. Il y a trois aspects à cette alliance-là. Il y a trois aspects dans Genèse 15. On voit que quand on va dans Genèse 15, cette alliance-là était basée sur le sacrifice. Donc, premier aspect, c'est que cette alliance-là était basée sur le sacrifice. Donc, il parle dans Genèse 15, il parle d'une génisse, d'une chèvre, d'un bélier, d'une tourterelle, d'une colombe. Et ça, c'est différents aspects du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Toutes ces choses-là représentent le même sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ces différents aspects du sacrifice, cette alliance-là est basée sur le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, qui va être développé plus tard dans le livre du Lévitique. Donc, mais tout, de troisièmement, le troisième aspect, le symbolisme, on voit qu'Abraham est tombé dans un sommeil profond. Puis c'est comme Abraham tombé dans un sommeil profond, c'est comme s'il est mis de côté. Puis c'est Dieu qui s'engage. D'habitude, quand on prenait des animaux comme ça, on les séparait. On passait les deux parties qui étaient dans cette alliance-là, passaient à travers les morceaux séparés des animaux. Puis ils s'engageaient comme ça. Mais maintenant, c'est pas Abraham, ne passe pas Abraham. Il est dans un profond sommeil. Puis c'est Dieu qui s'engage, lui, envers. Donc, dans cette alliance-là, c'est Dieu qui s'engage. Ce n'est pas l'homme qui s'engage envers Dieu, c'est Dieu qui s'engage envers l'homme, envers Abraham. Puis le symbolisme ici, c'est la fournaise. Dans Scofield, il parle d'un brasier, un brasier transportable. En anglais, ils disent un burning camp. So, donc, c'est quelque chose comme un brasier qui passait à travers les morceaux. Ça, le symbolisme de ça, c'est que la postérité d'Abraham passerait par l'épreuve, mais elle serait un témoignage pour Dieu dans cette épreuve-là. On sait qu'en Égypte, c'était un témoignage de la puissance de Dieu parce qu'ils sont passés à travers l'épreuve, en passant dans l'épreuve de l'Égypte. On sait que le Pharaon voulait les anéantir, mais plus il les persécutait, mais plus il se multipliait. Puis Moïse avait vu même dans le buisson ardent, il voyait un buisson, puis un buisson qui est en feu, ça se consume facilement, un buisson. Mais Moïse regardait, puis le buisson ne se consumait point. Puis Moïse était étonné de ça, puis il s'est détourné pour voir ce qui se passait. Puis c'est parce que le buisson représentait Israël dans la fournaise de l'Égypte, mais le fait que le Seigneur lui a parlé du milieu du buisson. Donc c'était si Israël n'était pas consumé dans la fournaise de l'Égypte, c'est que l'Éternel était avec eux. Dieu était avec eux, puis c'est lui qui les préservait, qui empêchait qu'ils soient consumés, puis qui les faisait en sorte qu'ils soient multipliés. Mais troisième aspect de cette alliance-là, ben, la promesse de l'alliance avait en vue la postérité et le pays. Donc la postérité et le pays du fleuve de l'Égypte jusqu'au grand fleuve. Donc c'est ça que dans l'alliance qu'il y avait là. Mais la deuxième alliance, ça c'était dans l'alliance de Genèse 15 avec Abraham. Dans la deuxième alliance, dans Deutéronome 28-30, avec Moïse, ben c'était la terre promise ici qui était en vue. Donc la terre promise, ben, c'est une série de bénédictions s'il y avait l'obéissance, mais aussi des malédictions s'il y avait la désobéissance. Puis on va peut-être aller dans Deutéronome chapitre 28. Le Seigneur parlait dans cette alliance-là ici, dans Deutéronome 28, les versets 23-24. Il parle de la pluie qui est retenue, s'il y a désobéissance. Il dit, le ciel sur ta tête sera d'airain et la terre sous toi sera de fer. Donc, c'est la pluie qui est retenue. Puis, il parle de la poussière et de la poudre ici au verset 24. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Mais aussi dans Deutéronome 30, au verset 3 à 8, il parle de la dispersion et aussi du rassemblement. Donc, Deutéronome 30 et le verset 3 à 8, il dit, Alors l'Éternel, ton Dieu, ramènera tes captifs. Donc, il parle de l'épreuve d'Israël. Alors l'Éternel, ton Dieu, ramènera tes captifs et aura compassion de toi et te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel, ton Dieu, t'aura dispersé. Quand tu serais exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel, ton Dieu, te rassemblera de là et c'est là qu'il t'ira chercher. L'Éternel, ton Dieu, te ramènera dans le pays que possédaient tes pères et tu les posséderas. Il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton âme, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. L'Éternel, ton Dieu, fera tomber toutes ses malédictions sur tes ennemis et sur ceux qui t'auront haï et persécuté. Et toi, tu reviendras à l'Éternel, tu obéiras à sa voix et tu mettras en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui. Mais vous, là-dedans, encore, on voit toujours que le Seigneur, dans son alliance, il avait en vue aussi le fait qu'Israël, dans leur désobéissance, serait On parle de l'aveuglement ici d'Israël. Donc, Israël a toujours eu des moments de difficulté, mais toujours préservé. À travers tout ça, a toujours été préservé. Donc, ces prophéties-là sont devenues l'histoire. Puis l'histoire d'Israël, vraiment, c'est trois captivités, puis trois restaurations. Voyez-vous, quand il parle de l'aveuglement d'Israël, c'est selon l'Écriture. Dieu avait prévu ces choses-là. Mais il y a trois captivités à cause de leur désobéissance, mais à cause de la promesse de Dieu, parce que comme Paul dit dans Romains, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Dieu a fait des promesses. En dépit de cela, il va les restaurer toujours. Donc, dans l'histoire d'Israël, il y a eu trois captivités, mais aussi trois restaurations, toujours eu des restaurations pour les captivités. La première captivité, c'est l'esclavage en Égypte. On sait que Jacob est venu en Égypte avec sa famille, puis c'est là qu'ils sont devenus une nation. Mais pendant 430 ans, ils ont été dans la fournaise de l'Égypte. Ils sont devenus une nation quand même, mais ils ont été rachetés de l'Égypte, l'esclavage de l'Égypte. Ils ont été rachetés par le sang de l'agneau pascal, le sang qui avait été mis sur le linteau et sur les poteaux de la porte. Puis ils ont été rachetés, ils ont été sortis de l'esclavage d'Égypte par la puissance de Dieu, puis Moïse étant le prophète pour les conduire dans la terre promise. La deuxième captivité, c'est quand ils ont été apportés, ont été amenés en captivité à Babylone, après que les rois de Juda, ils ont été amenés pendant 70 ans à Babylone. Il y a eu la destruction du temple. Puis il y a eu après ça la restauration sous Esdras. Donc il y a eu la déportation à Babylone, mais Dieu encore à cause de son alliance qui sont irrévocables, il les a ramenés encore. Puis il y a eu la restauration sous Esdras. Puis l'histoire de cette captivité-là qui est arrivée à sa fin après les 70 ans, on peut lire ça dans cinq livres de l'Ancien Testament: Esdras, Néhémie, Agé, Zacharie et Malachie. Mais la troisième captivité, qui est encore plus sévère, c'est par les Romains, qui ont été en 70, après que le Seigneur Jésus est mort, qui est ressuscité, puis qui est allé au ciel. Bien, il avait promis la destruction de Jérusalem en 70. Puis là, c'est une dispersion ça fait 2000 ans maintenant, hein, ça fait presque 2000 ans que cette dispersion-là existe, où Israël a été emporté dans toutes les pays sur la terre, hein, parmi toutes les nations. Dans Deutéronome, au chapitre 28, le verset 63 à 68, il avait dit: De même que l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier, de même l'Éternel prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire, et vous serez arrachés du pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre, et là tu serviras d'autres dieux que non connus, ni toi, ni tes pères, ni du bois et de la pierre. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille, tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante. Ta vie sera comme en suspens devant toi. Tu trembleras la nuit et le jour, tu douteras de ton existence. Dans l'effroi qui remplira ton cœur et en présence de ce que tes yeux verront, tu diras le matin, puisse le soir être là, et tu diras le soir, puisse le matin être là. Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte, et tu feras ce chemin dont je t'avais dit, tu ne le reverras plus. Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis, comme serviteurs, comme servantes. Il n'y aura personne pour vous acheter. Donc, on voit que le Seigneur a toujours prédit ces choses-là. Puis, dans notre sujet maintenant, qui est l'aveuglement d'Israël, il y a eu une dispersion d'Israël à travers les nations. Mais comme le Seigneur a toujours restauré, ben encore il va restaurer dans cette dispersion-là à travers les nations. Mais dans Deutéronome, au chapitre 30, le rassemblement est prédit. Faut toujours comprendre ça, que le Seigneur n'en a pas fini avec Israël. Il va accomplir parfaitement ce qu'il a promis. Ses alliances avec eux, il va les accomplir. Dans le chapitre 30, verset 1, « Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi et te rassemblera comme du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé. Quand tu seras exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là et c'est là qu'il t'ira chercher. L'Éternel ton Dieu te ramènera dans le pays que possédaient tes pères et tu le posséderas et te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme afin que tu vives. Donc on voit ici que quand est-ce que ça va arriver? Ça c'est quand dans leur immense persécution qui vont arriver au point d'être détruits. Là, c'est là qu'ils vont se tourner vers le Seigneur. Puis quand ils vont se tourner vers le Seigneur, ben là, il va les ramener. C'est lui qui va les restaurer à ce moment-là. Donc, on sait que maintenant, le rassemblement d'Israël se fait maintenant. Dieu a commencé en 48, il en a ramené dans le pays. Mais là, il en ramène encore dans le pays. Puis ça se passe sous nos yeux, mais ça, c'est. Il va avoir après ça. La vallée, comme on voit dans Ézéchiel 37, la vallée des ossements, les os se mettent à bouger, il y a un bruit qui se fait, les os viennent ensemble, mais sont sans vie. Ensuite de ça, ben, la chair commence et les nerfs commencent à croître. Donc, le rassemblement, c'est la fête des trompettes, dans les fêtes d'Israël, la fête des trompettes les rassemble, mais ensuite de ça, il dit de prophétiser dans Ézéchiel. Sur ces eaux peuvent-ils revivre? Puis, ben, c'est comme impossible. Mais le Seigneur, Ézéchiel, il dit de prophétiser sur les eaux. Puis pendant qu'il prophétise sur les eaux, qu'est-ce qui arrive? C'est que l'Esprit rentre en eux, puis ils deviennent vivants. Ça, c'est le jour des expiations. C'est quand ils vont finalement être restaurés avec leur Messie. Ils vont reprendre vie à ce moment-là. La troisième alliance, ben, c'est l'alliance avec David. On a vu la première alliance, c'était avec Abraham pour la postérité, avec Moïse pour le pays. Maintenant, l'alliance avec David, ben, c'est quoi? Ben, c'est le royaume qui est en vue ici. Hein. Le royaume qui était une pensée bien présente avec les Juifs, avec les disciples. On parlait, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Ben, c'est ça. L'alliance avec David, en vue. C'est le royaume, le trône, la couronne, le sceptre, c'est ça qui est en vue ici. Donc, c'était une promesse qui était faite à David et à sa maison pour toujours. Si ses fils étaient désobéissants, ils seraient punis, puis ils l'ont été, c'est pour ça qu'on a la dispersion, mais la promesse n'était pas changée, la promesse dure n'était pas changée, puis Dieu va susciter un fils à David qui lui va amener l'accomplissement de la promesse. Donc, cette alliance-là va s'accomplir avec le plus grand de ses fils, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Puis, il va s'asseoir sur le trône de son père David. Le Seigneur Jésus va s'asseoir sur le trône de son père David, mais on sait quand même que le Seigneur Jésus est plus grand que David. Puis, le Seigneur avait demandé cette question-là, de qui le Christ était le fils, puis on dit de David. Mais il dit comment ça se fait que David, animé par l'Esprit, l'appelle son Seigneur. Donc, le fils de David est plus grand que David. On est dans le psaume 72, verset 8. Le psaume 72 et le verset 8. Il montre le règne ici du Seigneur Jésus qui va régner. Le 72 au verset 8 dit, il dominera d'une mer à l'autre. Et du fleuve aux extrémités de la terre. Donc, ça, c'est le règne du Seigneur Jésus. Il va dominer d'une mer à l'autre et du fleuve aux extrémités de la terre. Donc, le royaume du Seigneur Jésus, il va au-delà d'Israël. On parlait de Joseph qui était en bénédiction, qui poussait sur la muraille, au-delà de la muraille. Donc, le Seigneur Jésus est comme ça. Il est en bénédiction à Israël. Il va établir le royaume, mais aussi, il va bénir jusqu'à toutes les nations ici, là. Son règne n'aura pas de fin. Il y a trois noms qui sont donnés à Israël. Israël est vu comme la vigne. La vigne qui parle de son passé, c'est la vigne parle d'Israël en tant que nation. Hein. Il y a un plan que Dieu avait planté, qui avait mis en terre pour former la nation d'Israël. Donc, la vigne nous parle du passé d'Israël, du fait qu'ils sont devenus une nation, comment ils sont devenus une nation. Ensuite, un autre nom qui est donné à Israël, c'est le figuier. Le figuier, ben, c'est la vie religieuse. Le figuier représente la vie religieuse d'Israël. Durant le temps où le Seigneur Jésus était sur la terre, ben, Israël, la religion en Israël était forte. C'était comme un figuier. Le Seigneur, il a vu un figuier qui avait des feuilles, mais il n'y avait pas de fruits. Puis là, il a maudit le figuier qui a séché. Puis les disciples ont vu cela. Donc, c'était que Israël, au point de vue religieux, ben, il y avait les pharisiens, les scribes, il y avait le souverain sacrificateur, il y avait toutes ces choses-là, il y avait le temple. Au point de vue religieux, il y avait des feuilles, mais il n'y avait pas de fruits. Puis le Seigneur a maudit le figuier. Ensuite de ça, Israël est considéré comme un olivier. On le voit dans Romains aussi, dans Romains 11, il est comme un olivier. L'olivier nous parle de l'huile, hein, l'huile d'olive qui représente, l'huile représente l'esprit. Puis le figuier, c'était au moment où le Seigneur Jésus était sur la terre, l'olivier représente sa future restauration. Là, on voit que le figuier a été maudit, puis là, il est dans l'aveuglement présentement, parce que même le temple leur a été enlevé, il a été détruit. Puis, ils ont plus les sacrifices, ils ont plus ces choses-là. Mais maintenant, après ça, ils vont revenir que c'est l'olivier ici, dans sa future restauration. Puis l'olivier parle de sa vie spirituelle quand ils vont être restaurés au Seigneur. Donc, ces trois termes-là sont liés aux trois chapitres de Romains. Bon, donc, Romains 9 nous parle de l'élection d'Israël, la nation, hein, la vigne. Dieu a fait des promesses. Il y a eu une élection d'Israël comme nation pour donner l'alliance, le culte, la loi, le Christ qui est venu par eux autres. Donc, le chapitre 9 parle de la vigne, l'élection d'Israël comme nation. Le chapitre 10 nous parle de leur réaction à l'Évangile. Le figuier, dans son état religieux, a refusé l'Évangile, puis il a été maudit. Puis il a séché, comme on voit dans l'aveuglement, pendant l'aveuglement d'Israël. Présentement, Israël sont dans un aveuglement. Dieu les préserve, ils ne sont pas détruits, mais au point de vue du Seigneur, ils sont déconnectés avec le Seigneur, ils sont plus en tant que nation, toujours, parce que, comme on a dit auparavant, en tant qu'individus, peuvent être sauvés autant que nous. Donc, le Romains 10 nous parle de leur réaction à l'Évangile. Puis Romains 11 nous parle de l'olivier maintenant qui va être. Les branches de l'olivier qui vont être greffées encore sur l'olivier franc. Les autres, ils sont l'olivier franc. Nous autres, on est l'olivier sauvage qui a été greffé au plant qui. Mais maintenant, Israël, ça va être l'olivier, les branches de l'olivier qui vont être greffées de nouveau. Encore une fois, comment on voit partout que Dieu restaure. Dieu va accomplir les promesses faites à Abraham, l'alliance qu'il a faite avec eux. Avec Abraham comme nation, avec Moïse comme leur donnant un pays, avec David comme leur donnant le royaume, eh bien, le Seigneur va accomplir ces choses-là. Puis, Paul conclut ici son argument dans Romains 9, 10, 11. C'est tout un argument dans Romains 9, 10, 11. C'est bon de lire ça puis de vraiment voir le contexte de quoi il s'agit. Comme on a dit, le 9, c'est l'élection d'Israël. Chapitre 9, c'est Israël en tant que nation. Qu'est-ce qu'ils sont? 10, c'est leur réaction à l'Évangile. Ils sont frappés à une pierre d'achoppement. Ils n'ont pas cru pour être sauvés. Ils sont dans l'aveuglement. Puis Romains 11, ben, ils vont être greffés de nouveau. Ils ont été coupés à cause de leur incrédulité, mais un jour, par la foi, ils ne chercheront plus la justification dans la loi. Mais ils vont la chercher par la foi, comme nous autres, les païens. On a trouvé la justification par la foi. Eux aussi, ils vont finir par comprendre ce principe-là de la justification par la foi. Puis ils vont être greffés de nouveau. Puis là, maintenant, leur vie spirituelle, l'esprit va rentrer en eux. Ils vont prendre vie. Ils vont être en contact avec Dieu. L'aveuglement d'Israël va être terminé à ce moment-là. Parce que comme Paul dit, il dit, Dieu a englobé tous les hommes dans la désobéissance. Donc, personne de nous autres qui peut se glorifier. On était tous désobéissants, mais Dieu a englobé tous les hommes dans la désobéissance. Pourquoi? Ben, pour faire miséricorde à tous. Ça, c'est le principe ici de l'Évangile, c'est que c'est la miséricorde, c'est la grâce. On méritait rien, que ce soit juif ou païen, peu importe, on était tous désobéissants. On va pouvoir tous dire que c'est Dieu qui nous a fait miséricorde. Au lieu de nous donner le jugement qu'on méritait, il nous a donné par sa grâce le salut par la foi. Puis c'est pour ça que, comme on disait, l'Épître aux Romains, c'est vraiment un exposé sur l'Évangile, qui est sur la base de la foi et non sur la base de la loi. Puis tout s'accorde ici. Tellement que Paul arrive à la conclusion de ces trois chapitres-là, dans chapitre 11 de Romains, au verset 33, il a fini par dire, il s'exclame dans un éclat de louange à Dieu pour sa sagesse. Il dit, ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. C'est par lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Donc, Paul ici est ébloui devant ça, devant la grandeur du plan de Dieu. Et il démontre vraiment que la mise à l'écart, l'aveuglement d'Israël pour un temps est parfaitement en accord avec toutes les alliances, avec toutes les promesses que Dieu a faites à Abraham, à Moïse, à David, puis au patriarche qui a été ratifié au patriarche. Eh bien, c'est tout dans l'harmonie. Il y a aucune. Dieu ne déroge pas de ce qu'il avait promis. C'est ça qui est merveilleux. D'autres, des fois, on a de la difficulté à comprendre tout ça. Mais quand on amène tout ça ensemble, comme Paul le fait pour nous ici, ben, c'était prévu que l'Israël serait dans l'aveuglement à cause de leur désobéissance, mais que Dieu ne les abandonnait pas parce qu'il avait fait des promesses, les dons et les promesses de Dieu sont irrévocables. Puis Dieu va revenir avec eux, il va les reprendre quand la totalité des païens seront entrés. L'aveuglement d'Israël va être levé à travers les tribulations terribles qui vont passer. Puis maintenant, ils vont apprendre eux aussi, parce que dans le temps du Seigneur Jésus, ils se basaient sur la loi pour leur justification. C'est pour ça qu'ils se glorifiaient. Mais à ce moment-là, ils vont comprendre, comme nous, on a compris, que le salut s'obtient par la foi. C'est la miséricorde puis la grâce de Dieu. Donc, il n'y a pas de désaccord. Tout est en accord parfait avec le plan de Dieu. Tous ceux qui sont sauvés vont être sauvés sur la base de la foi et non sur la base des œuvres de la loi. Puis là-dedans, ça enlève tout sujet de se glorifier. Puis c'est comme ça que Dieu nous a sauvés. Tous ceux qui sont sauvés, donc on devient quoi? On devient la postérité d'Abraham, qui est le père de tous les croyants, qui est le fondement de l'Évangile. Donc, tout l'argument de Romain, Paul, il en revient pas, il est vraiment ébloui par ça, puis il a fini par une exaltation de louange au Seigneur dans sa sagesse infiniment variée. Ça fait que je m'arrête là pour ce sujet-là sur l'aveuglement d'Israël. Seigneur voulant, la semaine prochaine, je vais vous donner la possibilité de reprendre votre micro. Puis la semaine prochaine, ben, on continuera, Seigneur voulant, sur le mystère de l'enlèvement de l'Église. Fait que si vous avez des questions, des commentaires, il nous reste 5 minutes pour pouvoir regarder ces choses-là.
J'aurais une question.
OK.
Dans l'Ancien Testament, il y avait des sacrifices pour les péchés involontaires. Mais pour le péché volontaire, comme dans le cas de David, quand il a fait sa folie avec Bathsheba, il a Uri. C'est encore la grâce qui est là parce qu'il n'y a pas de sacrifice pour le péché volontaire. Fait que si tu faut de dire ça, parce que j'ai fouillé pas mal, mais j'ai pas Quand on regarde les psaumes, là, 32, 51 principalement, là, on s'aperçoit que David, il n'offre pas le sacrifice. Il demande pardon à Dieu, il attend que Dieu lui pardonne. C'est la grâce, le pardon de Dieu qui joue là. Fait que...
Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais
Ouais.
c'est ça, il ne voit pas de salut dans les sacrifices. Il veut vraiment, il implore la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. Il se voit comme méritant pleinement le jugement de
Le
Dieu.
jugement.
Mais David était un homme comme ça. David était un homme, il a fait des choses graves, mais il y avait une chose que David savait, il savait se repentir. Puis il savait mettre sa foi dans la miséricorde de Dieu, dans la grâce de Dieu.
Il
Comme quand.
acceptait la punition, mal
Ouais.
quelles que
Mais il y
soient
avait
les
la.
circonstances.
Ouais, c'est ça. Parce qu'il y avait des. Il allait perdre quatre fils. Il allait donner quatre brebis pour la brebis qu'il avait pris. Puis il y a quatre de ses fils qui sont morts de mort violente.
Violent.
Ouais. Puis. Ou de mort qui n'était pas naturelle à la fin des jours.
C'est
Fait
une
que.
bonne vision de dire que pour le péché volontaire, il n'y
Ouais.
avait pas de sacrifice. Il y avait juste la grâce et la miséricorde de Dieu.
Ouais, c'est ça, parce qu'il dit que ceux qui foulent aux pieds le sacrifice de Christ,
Il
il n'y a
n'y
pas de salut pour eux
a plus
autres.
rien.
C'est
OK. Merci.
une bonne observation.
J'aurais une question encore une fois. Merci
Oui.
Richard, c'est bon d'avoir amené ce point de vue-là, là. Ça démontre vraiment que c'est seulement la grâce de Dieu, le sang de Jésus-Christ, qui peut sauver pour des péchés comme ça, hein. Alors, la question est, au temps d'Abraham, la loi n'existait pas. Alors, ceux qui vont être jugés, ils vont être jugés non selon la loi, mais selon leur conscience, comment?
Ouais, c'est ça, ben, oui, c'est parce que dans la révélation de Dieu, c'est ça, il y avait l'innocence au début, mais à un moment donné, il y a venu la conscience quand ils ont pris ils ont désobéi à Dieu, puis ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Là, ils ont connu le bien et le mal. Il y a la conscience. Mais on sait que, comme il dit, la loi est écrite dans leur cœur. Donc, on sait à cause de notre conscience, quand on a mal agi, même un petit enfant qui a mal agi, il a une culpabilité, là. Puis quand ses parents arrivent, il a une culpabilité. Il sait qu'il va se cacher, il va essayer de s'échapper à la punition. Puis après ça, ben, il y a le gouvernement de Dieu. Dieu a donné le gouvernement. Si par l'homme, le sang de l'homme est versé, par l'homme, son sang sera versé. Donc, mais il y avait une connaissance quand même du bien et du mal, là, avant que la loi vienne. Mais la loi est venue comme un standard. C'est comme un standard, c'est le standard parfait de Dieu. Là, Dieu, regarde, si vous voulez savoir c'est quoi le péché, ben c'est ça. Ça, c'est la loi. Ça, c'est le standard. Pour que les hommes puissent être convaincus de leur péché. Mais il y a des gens qui ont été convaincus de leur péché avant que la loi vienne. Parce qu'il y avait quand même, il y avait une connaissance de Dieu. Quelqu'un parlait, je ne me souviens pas qui, il parlait des saints de l'Ancien Testament avant Abraham. Des fois, on les oublie, ceux-là, mais il y avait des saints à partir d'Adam. Puis, continuant Job, il y avait des saints dans l'Ancien Testament avant Abraham, qui sont là aussi, Enoch, qui marchait avec Dieu. Donc, il y avait quand même une grande connaissance des choses de Dieu, là. Il y avait le sacrifice de l'agneau qui était. Faut pas oublier ça.
Merci.
Serge, est-ce que tu peux prendre ton micro? D'habitude, tu peux pas prendre ton micro. Est-ce que tu es capable de t'enlever de sourdine? Ouais. OK, tu l'as. OK, ça marche. Parce que d'habitude, tu as de la difficulté avec ça, là. C'est juste pour ça que je
Non, non.
demandais.
Non, non, parce que des fois, je touche trop fort, ça dérange tout le monde.
OK. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres commentaires, on va peut-être terminer par un mot de prière. Fait que ceux qui doivent partir peuvent le faire. Puis, s'il y en a qui veulent, comme on dit toujours, s'il y en a qui veulent continuer la discussion, on peut la continuer par après. Seigneur, notre Dieu, on te remercie pour ta grâce merveilleuse. Notre Dieu, on est totalement dépendant de ta grâce, de ta miséricorde qui nous épargne du jugement qu'on mérite, mais de ta grâce qui nous donne le salut parfait en Jésus-Christ à cause de ses mérites à lui. et à cause de ce qu'il a fait pour nous. Merci, notre Dieu. Puis oui, comme Paul exulte, vraiment qui peut dire, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables. Seigneur, on voit dans ta parole comment tout est en parfaite harmonie avec ton plan merveilleux. Puis pour nous, des fois, c'est difficile, Seigneur, de rassembler ces choses-là ensemble pour voir qu'il n'y a rien qui est en désaccord avec ce que tu nous as dit, de ce que tu nous as promis, de ce que tes alliances que tu as faites avec Israël. Seigneur, personne ne peut apporter aucune condamnation à toi dans tes jugements. On te remercie, notre Dieu, on te rend grâce au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.